Chapitre 14. La nuit s'était installée depuis longtemps sur la capitale. Un ciel sans étoiles, chargé de nuages noirs et menaçants. Il était plus de 19h. Assis à son bureau, seul, Franck Charcot terminait de lire en diagonale les livres que l'assassin avait mis sur leur chemin. Ça l'ennuyait de perdre ainsi son temps avec des poèmes ou de vieilles histoires, alors qu'une femme agonisait peut-être. Mais Titi lui avait ordonné de le faire. Vous avez toutes les pièces en votre possession pour sauver Delphine. Leur homme parlait-il de ces classiques de la littérature? Alors? Le chef de groupe venait d'entrer d'un pas vif. Les avancées de son numéro 6 l'avaient mis dans un état de nervosité, le poussant à arpenter les couloirs, une cigarette aux lèvres, entre deux auditions. Charcot savait Titi marié, père de deux enfants, mais à le voir si impliqué dans son travail, il se demanda s'il avait réellement une vie de famille. Pas grand-chose, répliqua Franck. Il répéta les mots de Suzanne au sujet des fleurs du mal, puis fit un bref résumé de ses autres lectures. « Je ne vois pas comment ces ouvrages peuvent nous aider à retrouver Delphine. Il est question de personnages doués de pouvoir, ou basculant dans la folie. L'homme invisible était un type rejeté, détesté à cause de sa différence. Rien de neuf sur cette histoire de pagode ? Je n'en sais rien. Je ne comprends pas ce que ça vient faire là. Il n'y a pas de rapport avec les bouquins. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut qu'on fasse pour réunir la fameuse paire. » Franck poussa un soupir. Son regard tomba sur les photos des enfants nus. « Que donnent les auditions de votre côté ? Est-ce qu'elle serait mieux côtoyer des gamins ?»« Rien ne l'indique. On a interrogé une dizaine de personnes, on continue à chercher. On n'arrive pas encore à cerner les zones d'ombre de Delphine, elle a l'air clean. On poursuit. Des profils suspects ? Deux ou trois alibis à vérifier, mais ça ne nous mènera nulle part. Visiblement, elle n'avait parlé de son impression d'être suivie à personne. Il ressort de ses premiers retours qu'elle était renfermée, plutôt timide et passionnée, limite obsédée par sa peinture. » Le directeur de la galerie où elle exposait, rue Beaubourg, explique que ses tableaux sombres représentaient un mélange d'univers fantastiques, de rêves et de peurs primaires, comme celle du noir ou des araignées. Delphine était peu encline à se livrer sur sa vie privée. Jamais elle n'évoquait son homosexualité, même si celle-ci ne faisait aucun doute pour certaines de ses connaissances. Ses parents, eux, n'étaient pas au courant. Jusqu'à présent, les nanas qu'on a pu rencontrer ne sont que des relations de travail. Charcot rassembla les clichés étalés devant lui, ainsi que les copies des lettres. « Au fait, » fit Titi, « j'ai du nouveau côté scientifique. L'anapathe, d'abord, est formelle. Notre cadavre X n'a pas été violé. » Le jeune inspecteur intégra l'information. Le meurtre se résumait donc à du pur sadisme. La victime avait été à sa merci. Pourtant, le tueur avait résisté à la tentation de la pénétrer, ce qui confirmait son intuition. Il avait instauré une distance entre elle et lui. Quant au timbre des lettres, ils étaient bourrés de salive. Ligy a délégué ça au labo de Nantes. Et la section documents a bien bossé aussi. Ils ont établi que la police de caractère sur les courriers est de type Elite 7, fabriquée par Olivetti. Il y a 7 marques de machines à écrire compatibles avec ce genre de ruban. Tu vas dire que ça nous fait une belle jambe, mais c'est à garder en tête. Titi alla chercher une pile de papier carbone dans un tiroir fermé à clé. Chez nous, ça avance également. Flo a finalement réussi à contacter toutes les femmes du carnet d'adresse d'Escrémieux. Par conséquent, notre cadavre n'en fait pas partie. Toujours inconnu au bataillon, donc. Le télégramme envoyé par le glaive n'a rien donné non plus pour le moment. Il regarda le sol, pensif, puis revint à l'assaut. Il faut qu'on retrouve Delphine, Charcot. J'ai fait du forcing pour récupérer ce dossier. Le substitut me harcèle et j'ai le taulier qui exige des résultats. Avec l'affaire des disparus en vrac, on ne peut pas se planter une deuxième fois. Ça ferait trop plaisir à Santucci. Il s'empara des livres posés devant son subordonné et les jeta par terre. Laisse tomber ça, on perd notre temps. Retourne au bar à Gwyn du Marais. Mets-toi devant l'établissement, pose des questions à celles qui entrent et sortent de là. On est samedi soir, il y aura du monde. Est-ce qu'une cliente régulière manquait l'appel? Est-ce qu'Escrémieux avait une relation? Est-ce qu'elle branchait des nanas là-bas? Charcot acquiesça. Il avait de toute façon prévu d'y repasser pour interroger la serveuse du Nomen, même si Suzanne l'attendait à l'appartement. Et je te demanderai d'être présent demain, ajouta Titi. S'il y a une chose de bien que j'aimerais faire dans ma vie, c'est de ramener une victime en vie à ses parents. On voit jamais de sourire dans notre boulot. À la longue, ça plombe. Titi avait raison. Franck ne s'imaginait pas se promener ce dimanche avec Suzanne, alors qu'une jeune femme avait besoin de leur aide, quelque part, dans un lieu froid, sinistre. Un lieu abandonné. Que ressentirait-il s'il n'avait pas tout fait, pas tout donné pour la sauver, et qu'il lui arrivait malheur? Il décrocha son téléphone et confirma à sa fiancée qu'il allait rentrer tard. Il enfila vite son blouson, prit ses tracts, et se mit en route.